Hadracha pour la Amida, pour la Shmoneh Esrei. En fait, c'est un passage, c'est pas lui, c'est tiré de Rabbi Yonatan Eibeshitz, dans son livre Yarot Dvash. Alors, ça, il y a quelques pages, trois feuilles à étudier. Il explique chaque bracha. Quel sens de chaque bracha de la Amida. Il y a un passage très intéressant, tout intéressant, mais qui a marqué Bidouk cette semaine, sur la bracha de Hashivenu. Hashivenu avinu le Toratecha. Alors qu'est-ce qu'il dit? Kshomer Birkat Hashivenu itpalel me'od she'ir Hashem enav bitshuva. Quand on fait la bracha de Hashivenu, eh bien, il faut prier de tout son cœur qu'Hashem éclaire ses yeux dans la tshuva. Kien be'afar Moshel aletzara. Parce qu'en fait, dans un monde matériel dans lequel on vit, il est très difficile de combattre, de vaincre le Yetzara. Rak besiwa akesh baruch hu. C'est uniquement grâce à l'aide d'Hachem. Comme dit la Gemara, il m'allait Hachem ozro eno yachol lo. Il ne faut pas s'imaginer qu'on peut s'arranger seul sans l'aide d'Hachem, c'est impossible. Il faut absolument l'aide divine. Il faut demander ça à Hachem. Michol sheken bal tshuva. Plus forte raison, quelqu'un qui est Baal Tshuva. Alors en fait, de nos jours, n'est-ce pas, on est tous Baal Tshuva, ça il faut savoir. Parce que même quelqu'un qui était dans la Torah depuis son jeune âge, alors bon, il y a toujours, n'est-ce pas, des dérapages, c'est très difficile de... bon, on s'est trompé ici, on a fauté là. Alors la notion de Baal Tshuva, elle est très très, en fait... d'actualité de nos jours, ça il faut savoir. Dans la Torah, n'est-ce pas, la tshuva, c'est une mitzvah qui est très importante. C'est une mitzvah qu'on en parle matin, midi et soir. N'est-ce pas? Hashivenu, c'est une bracha. En fait, on fait trois brachot sur la tshuva tous les jours, matin, midi et soir. Parce que c'est une mitzvah qui nous concerne constamment. À noter que c'est une des seules mitzvot qu'on peut toujours faire, jour et nuit. Chaque instant de l'année, de la vie, Shabbat, Yom Tov, en semaine, il n'y a pas un temps qui est exempté de la tshuva. Shabbat, c'est tshuva me'ava. Tshuva me'ava, pas de vidou, c'est-à-dire tshuva. Tshuva, c'est quoi tshuva? C'est revenir, le retour. C'est pas le repentir. Tshuva, c'est la tshuva d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem, revenir vers Hachem. Alors, quand tu prends une bonne décision dans n'importe quel domaine, par amour pour Hachem, c'est une tshuva. C'est une tshuva. Le Shabbat, c'est interdit. Même la veille du Shabbat, à partir de Chatzot, jusqu'à Motzei Shabbat, Chatzot, interdit. Vidou, c'est interdit. Même si tu dors ton Motzei Shabbat à 11h du soir, il n'y a pas de vidou dans le Kratch Malamita. Alors en fait, la tshuva, c'est aussi un point important à noter, c'est que c'est pas tous les éléments de la tshuva sont toujours des conditions. C'est-à-dire que même lorsqu'on a fait une partie de la tshuva, sans tout faire, eh bien, si on a l'intention évidemment de tout faire, eh bien, c'est déjà consigné. C'est déjà considéré, n'est-ce pas, comme une tshuva qui est acceptée, qui est agréée. Donc en fait, là, on est tous Baal Tshuva de nos jours. Alors il dit que, surtout un Baal Tshuva, chez Kvar Nishta, qui avait la Falbiado, eh bien, qui est déjà, n'est-ce pas, tombé, il a sombré dans la faute, dans la vera, Vareu Shavui Etzlo. Il est déjà prisonnier chez lui, dans son Yetzara. Alors là, ici, un point important, c'est qu'en fait, ce qui peut arriver malheureusement, quand on s'habitue à la faute. Et en fait, ce n'est pas pour les fautes, c'est pour n'importe quelle mauvaise habitude de la vie. Dès qu'on prend le pli, dès qu'on s'habitue à quelque chose, eh bien, on peut devenir prisonnier du Yetzer Hara. On peut devenir, eh bien, dépendant. On dépend de ça. C'est n'importe quoi. On peut devenir dépendant de la cigarette, dépendant du Coca-Cola, dépendant du gâteau, n'est-ce pas, dépendant du café du matin, de n'importe quoi, eh bien... Dans la jeunesse, dimanche, c'est un jeûne. Il y en a qui sont malades parce qu'il n'a pas le café du matin, il a mal à la tête. C'est une dépendance. Je ne dis pas que c'est grave, n'est-ce pas? Juste pour expliquer ce qui se passe dans notre corps, et notre esprit, et notre âme. C'est qu'on peut, avec l'habitude, développer une dépendance. Et en fait, on est, n'est-ce pas, prisonnier de notre yetzara, de notre, on dépend de telle habitude, même, des fois même ça peut être une bonne habitude.
C'est le cerveau qui fait ça.
Pardon, c'est
le cerveau qui fait ça, qui crée l'habitude.
Le cerveau qui fait ça.
C'est pas le corps.
Tu as raison. Alors, quand on parle du corps, il faut bien prendre dans les balais moussards, dans la Torah, quand on parle du gouffre, le corps, alors le corps, pas le corps, c'est un cadavre. Le corps, on parle de nefesh, tu as raison. On parle, c'est le côté instinctif et passion de l'homme. En fait, c'est lié au cerveau, c'est vrai. C'est lié au cerveau. Alors, parce que tu as dit ça, on va dire un mot de plus. Il faut bien savoir et comprendre, c'est que, alors, cette dépendance, l'habitude bonne, elle est bien. C'est vrai. Elle a aussi des avantages. Mais cependant, quand on devient dépendant de quelque chose, on ne peut plus s'en passer, ça crée un problème. Et il faut aussi bien savoir une chose, c'est que cette dépendance, comment est-ce qu'elle se développe? L'habitude, c'est une chose. Mais surtout, lorsque, eh bien, on va faire dépendre cela de la notion de souffrance et de plaisir. Je vais expliquer. Si quelqu'un est mal en point, il est mal en point, déprimé, ben il y a un échec, une angoisse, un souci. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun réagit différemment. Il y en a qui vont aller dormir, il y en a qui vont aller se distraire, il y en a qui vont prendre un chocolat ou un gâteau. Alors ce que tu fais quand tu es mal en point, tu vas créer une dépendance. C'est-à-dire ce qui va, n'est-ce pas, ce qui va t'accorder un bien-être. Tu vas sortir de ton angoisse, ton souci, grâce à ton verre de café, grâce, n'est-ce pas, à n'importe quelle passion, plaisir que tu vas t'accorder maintenant, qui ne soit pas moins interdit, tu vas créer une dépendance, tu vas devenir encore plus dépendant de cela. Ça, il faut le savoir. Alors, c'est pourquoi ne pas ces conseils en général, quand tu vois un point, prends un livre de Tehillim, prends ta Gemara, prends ta Tfila, parce que ça va te soulager. Et tu vas créer une dépendance, en effet, sur le Tehillim et d'Atfila. Non, je ne dis pas que c'est interdit, je répète. C'est que tu as le droit, n'est-ce pas, quand tu es mal en point, eh bien, tu prendras un gâteau, prendre un chocolat, n'est-ce pas, etc. Ok, mais sache que tu vas devenir encore plus dépendant parce que, n'est-ce pas, parce que, eh bien, ça t'a aidé de sortir de ton souci. Alors bon, il y a certaines explications dans la psychologie, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, n'est-ce pas, etc. Pourquoi tu dépends de cela. Mais juste, c'est bon à savoir. C'est ce qu'il dit ici, le Rav, paru shavui etzlo. On n'est pas prisonnier de lui. Alors, ça peut être une avéra, ça peut être même pas une avéra, une habitude qui est mauvaise. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il y a ici un chidouche. Vous savez, de nos jours, les psychologues ont des techniques. Des techniques pour libérer l'homme de sa dépendance. Bah, par exemple, paraît-il qu'ils vont utiliser des vomitifs. Ils vont te mettre, n'est-ce pas, te faire imaginer la situation mauvaise dans laquelle, pardon, la situation de plaisir dans laquelle tu es. Tu dépends pas de la cigarette, n'importe quelle autre chose. Et ils vont, n'est-ce pas, associer une situation désagréable avec cela. Ils vont amener l'homme, n'est-ce pas, à vomir, par exemple. Il prend la cigarette, pas, il approche sa bouche, il va vomir. Quand on va répéter cette opération plusieurs fois, eh bien, on crée une connexion de sensations désagréables, eh bien, que tu vas associer au fait de la cigarette, et le fait que tu vomis, ça te dégoûte. Et petit à petit, n'est-ce pas, tu vas créer aussi, eh bien, un éloignement de la cigarette ou n'importe quelle mauvaise habitude. Bon, ça c'est une chose, je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Top, c'est une technique. Donc, le rabbi dit une chose. Il dit qu'il y a un chidouche ici, n'est-ce pas, dans la tefila en général, et dans cette fila de tshuva que nos sages ont instauré. Alors, je vous rappelle ce que dit Nefesh HaChaim, c'est que la Amida et la tfila en général a été rédigée par 120 personnes Anshe Knesset Agdola. Ça remonte pas il y a longtemps, ça, il y a presque 3000 ans. Parmi eux, quelques Nevim, quelques prophètes, Haggai et Malachi, qui étaient avec, ils sont réunis, 120 personnes, pendant des années, pour rédiger la tfila et l'amida. Et chaque parole a été choisie. En fait, ils ont réussi à compiler tout ce que le monde entier et une personne a besoin dans la tefila. Et là, il dit que la Rizal, dans tous les secrets de la Kabbalah qu'il a dévoilés, je vous dis, il faut des centaines d'années d'études, n'est-ce pas, pour comprendre ce que la Rizal a dévoilé sur la tefila. Et nous dit le Nefesh Reine, c'est une goutte dans l'océan. Par rapport aux Kavanot, eh bien, qu'ont eu ces 120 Anshei Kristal quand ils ont rédigé la tefila. Donc, c'est ça que la tefila, n'est-ce pas, c'est un monde en soi. Et chaque mot est pesé. Alors, nous, non, on n'est pas dans la Kabbalah, on n'est pas dans ça, mais au moins comprendre ce qu'on dit, et au moins bien prononcer chaque syllabe de chaque mot de la tefila. Quand tu dis Hashivenu, eh bien, comprends ce que tu dis. Et sache que dans cette bracha est compilée toutes les formes de la tchouva. Tous les secrets de la tchouva, ils sont dans ces trois lignes de Hashivenu. Non, 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 même si on... Non, attention. C'est sûr que plus tu vas intensifier ta compréhension, n'est-ce pas, et ta foi, ça va agir, c'est vrai. Maintenant, même sans comprendre, ça agit. Maintenant, croire, je veux dire, quelqu'un qui ne croit pas, c'est une autre paire de manches. Il ne croit pas. Pourquoi est-ce qu'il le dit s'il ne croit pas? Non, mais il croit que ça agit quelque part. Pas que ça ou une force minime en tout cas. Ben, sinon pour essayer.
Au cas où, si je fais ça.
Au cas où. Ok. Le fait qu'il le fait n'est pas, c'est déjà un million de croyances et ça va agir aussi. D'accord. Ça va être limité, mais ça va agir aussi. D'accord. C'est vrai. Ok. Top. Et donc, nous dit Sidorav qu'il y a une force spéciale. Akjro Podé Shvouim. Et Hachem, il va délivrer même les gens prisonniers de leur Yetzara, de leur habitude mauvaise. Par le fait d'avoir fait une prière, en général, par le fait d'avoir prononcé ces mots de la tefila, ces mots de tshuva qui ont été choisis par nos sages, Bezoshita l'atzmo, Balkol Israël. Et donc, il y a une force magique ici, qui t'a été transmise. Quand tu dis Hashivenu, eh bien, ça va, comme ils ont réussi à compiler toutes les facettes et dimensions de la tshuva, donc ça va aider. Même pour quelqu'un qui est prisonnier, qui est dépendant de sa avéra, de son habitude mauvaise. C'est un chidush ici. D'abord parce que c'est une tefila. Et quand c'est une tefila, alors c'est Hachem. Et automatiquement, tu vas faire intervenir une notion, on va dire, métaphysique, même plus une notion infinie. Je vais expliquer. Quand on a une technique de psychologie, ça agit. Mais ça agit selon les notions, n'est-ce pas, du monde matériel, les capacités humaines qui sont limitées et qui sont finies. Parce que l'homme est limité. Alors tu agis, n'est-ce pas, dans sa psychologie, bon, ça va agir, je dis pas non, ça marche, mais c'est limité. Parce que selon ta capacité, selon ton effort, selon ton investissement. Quand on parle de la tefila, on fait intervenir Hachem. On fait intervenir une dimension qui est infinie, qui est divine. Et donc ça va agir même au-delà de tes capacités. C'est ce qu'il dit ici. En fait, ça peut te libérer d'une dépendance, même pendant des dizaines d'années que tu as eu. Tu vas pouvoir être libéré avec cette bracha de tshuva, eh bien, de façon surnaturelle. Tu vas pouvoir ne pas confronter eh bien, une situation qui est même au-delà de tes capacités. Évidemment, ce n'est pas en une fois, il faut le répéter, pas matin, midi et soir, bekavana. Mais savoir, n'est-ce pas, eh bien, que ça agit. Maintenant, il rajoute encore un élément important. Il faut prier sur soi et prier sur tout Am Israël. On dit ça plusieurs fois du Gaon de Vilna. La tefila a été rédigée au pluriel. On ne dit pas Hashiveni, mais on dit Hashivenu. On parle de tout Am Israël. On ne dit pas Refaeni. Entre parenthèses, Refaenu Hashem. C'est cette phrase-là, elle est tirée d'un verset de Yirmiya. C'est une tefila de Yirmiya, un avi qui l'a rédigée. Et là-bas, il a dit Refaeni. On ne parlait que de lui là-bas. Refaeni Hashem ve'erafe. Mais en sachant instaurer ça, Refaenu, c'est qu'il faut prier pour tout Am Israël. Et là, automatiquement, il y a une force de plus. Parce que tu fais intervenir aussi toute la capacité d'Am Israël. Lorsque la demande, elle est collective, ça a plus de force. Okay?
Pourquoi le fait d'utiliser les mots de Yirmiya, ça rajoute quelque chose?
Les mots de Yirmiya, ça rajoute quelque chose. Bonne question. Alors en fait, il faut bien savoir que le Tanakh entier, il est Kodesh, Kodesh, Kodashim. Pensez bien que qu'on ne doit pas mettre un Nevi'im sur la Torah, un Ktuim sur un Nevi'im, n'est-ce pas, et pas mettre même une Gemara sur un Tanakh. Parce que le Tanakh, c'est plus Kadosh que Mishnah et Gemara, tous les livres qui viennent après. Top. Et en fait, alors c'est aussi écrit dans le Midrash qu'il y a eu beaucoup de prophéties des prophètes. Beaucoup, beaucoup. Dans les camps du prophète, ils ont beaucoup de névoites. Et celles qui ont été inscrites, consignées dans le Tanakh, c'est parce qu'elles concernent tout un Israël dans tous les temps. Et c'est des névoites particulières qui concernent chacun de nous. Et c'est pourquoi celles-ci ont été choisies d'être inscrites dans le Tanakh. Et c'est pourquoi ça a une force particulière, en effet. À part ça, il y a un élément important qui intervient. Alors, il y a un Rambam très important, je vous conseille de le voir. C'est dans Perusha Mishnayot, Masachet Para, Perek Gimel, Mishna Gimel. Dit le Rambam, alors qu'il douche, c'est que quelqu'un qui était impur et qui a été purifié par le Mikvé, ou alors par la vache rousse, alors on a eu cette semaine, la semaine d'avant, Rukat, par Adouma, la vache rousse, elle purifiait. Quelqu'un qui avait une impureté, pas parce qu'il a touché un mort. Alors n'importe quel Touma et Tara, qui était impur et qui était purifié, en comparaison avec quelqu'un qui n'a pas été impur, lequel des deux est plus purifié, à votre avis? Celui qui n'a jamais été impur ou celui qui a été purifié?
Penserait que celui qui n'a jamais été impur.
Hazak, n'a pas. Hazak, c'est ce que tu dis là. Alors pourquoi? Raman, pourquoi c'est évident?
C'est évident, il vient d'être purifié, c'est un nouveau-né. Il n'a jamais fauté, alors que celui qui est. C'est comme ça qu'il renaissait, alors que celui qui n'a pas été impur, c'est pas forcément une impureté qui nécessite la vache rousse. C'est une impureté,
s'il n'a jamais été impur, donc il est pur 100%.
Oui, mais le monde est impur, alors il côtoie déjà le monde qui est impur.
Non, le monde qui est impur. Top, apparemment, tu veux dire ce que dit Rambam. Rambam dit ce suivant. Il dit, c'est puisque la Torah a dit Verachatz et de Saobamaim Vetaher, il va, n'est-ce pas, donc se tromper au Mikvé, il va être purifié, ou alors, eh bien, il va être purifié par la vache rousse. Le fait que la Torah a décrété, a consigné sa purification, eh bien, il est encore plus purifié. Pourquoi? Parce qu'il a reçu, la purification de la Torah. La Torah, c'est une dimension métaphysique infinie qui intervient. Et donc, cet homme-là, il a reçu une purification de plus que celle de la Torah. La Torah a non seulement garanti, n'est-ce pas, mais lui a octroyé, eh bien, cet état de purification, de Tahara. Et automatiquement, eh bien, il est plus pur que l'homme qui n'a jamais été impur. Donc, c'est aussi, ça intervient aussi ici, c'est que quelqu'un, n'est-ce pas, eh bien, qui va mériter la tchouva, eh bien, ça revient aussi à ce qu'on dit nos sages, comme je vais tchouva omdim, tzadikim gvorim erchem lavot. Parce que, eh bien, il a reçu une dimension de plus qui est celle de la tchouva. Et donc, il a avancé bien plus que ce qu'il avait auparavant. Ken Darkam, une seconde, Ken. Donc il faut prier sur lui, à Israël, Shiten Hashem Lehem Lev Tahor V'Chadesh Bekirbo Ruach Nachon. Ça, il fait allusion au verset dans Tehilim, Lev Tahor B'Radi Elokim V'Ruach Nachon Chadesh Bekirbi. C'est des paroles très puissantes. David Ameler, Lev Tahor B'Radi Elokim. Un cœur pur, eh bien, crée en moi Hashem. Ruach Nachon est un esprit, on va dire, saint, juste, saint. Chadesh Bikirbi renouvelle en moi. Entre parenthèses, c'est une grande zgoula, n'est-ce pas, pour purifier le cœur et la pensée, de répéter ce verset à longueur de journée. Vous savez, un verset que Dieu a répété, ça a une force de Torah, une force de Tfila et une force de zgoula. Ça a trois capacités. Torah, Tfila et zgoula. Quand tu prends un verset, tu vas le répéter, eh bien, 100 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois par jour, ça a une force magique d'agir. Quand tu dis « Lev Tahor B'Ra'al Elokim V'Lo Chadesh B'Kirbi », eh bien, tu vas te purifier Eh bien, le cœur et l'âme, grâce à cela. Et donc, en fait, la tchouva, n'est-ce pas, eh bien, peut renouveler l'homme. Ça donne des capacités nouvelles. Et donc, une dimension encore plus grandiose que tu avais auparavant. Qui potéar sha'ar ledovke b'tchouva. Parce que Hachem ouvre la porte à ceux, n'est-ce pas, eh bien, qui viennent réclamer la tchouva. Le kendakam shel ba'et tchouva, shematrini. Maintenant, il dit un point important. Voilà, c'est le point essentiel que je voulais vous dire aujourd'hui. Eh bien, c'est que shematrinim leitraret, quand on commence à regretter, donc à faire tchouva, akshmochum mosif lem ruach tahara limod lazor b'tchouva. Eh bien, Hachem va nous aider, va donner un élan de tchouva, une ferveur, un enthousiasme extraordinaire, n'est-ce pas, au-delà du naturel, de faire tchouva. Eh bien, ça n'est pas souvent quelqu'un qui est bal tchouva à part entière, ou alors quand tu prends une décision, eh bien, d'avancer, de progresser, n'est-ce pas, dans tel ou tel domaine, tu le fais à fond. Alors, bien souvent, on peut sentir une ferveur, un élan, n'est-ce pas, on fait un bond, un saut par rapport à ce domaine-là. Et puis après, ça s'estompe. Après quelques semaines, quelques mois, boum. Des fois, c'est passé boum tout d'un coup. Des fois, il y a un Yetzera qui jaillit, alors que pendant des mois, on l'a oublié, pendant des années, et tout d'un coup, il jaillit. On pense terminer, il a de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, on est brisé par cela. On est brisé. On a l'impression que tout ce qu'on a fait, pendant des années, on a fait une surplace. Parce que voilà, je suis retourné encore dans la même Avera, les mêmes envies, même Yetzera. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il dit, n'est-ce pas, eh bien, c'est comme ça. C'est Zaderech et Baal Tchouva. Je vous répète, on est tous Baal Tchouva. N'importe quel domaine, quand on veut avancer ou progresser. Eh bien, Hachem, quand on commence à Tchouva, Hachem Mosiflem Ruach Tara Limod Larzob Tchouva. Hachem donne un grand élan faire Tchouva. Grande ferveur. Vachal Kaché après, Kaviachol, et dans ce temps, alors il dit, comme pour les mettre à l'épreuve, encore d'autres raisons, on va voir tout de suite. Pour mastir panav même. Hachem, eh bien, il va se cacher. Il va voiler son visage. Il va disparaître. Moshe Riado Apshuta, le Kablam. Et il va, n'est-ce pas, comme retirer la perche qui t'a tendue avant, il la retire. Pourquoi? Alors, j'ai lu un beau machin là-dessus. C'est comme, eh bien, des parents qui vont aider un bébé à marcher. D'abord, il marche à quatre pattes, n'est-ce pas? Il rampe, il marche à quatre pattes. Et après, eh bien, quand il peut se mettre debout, il le met debout, il le tient avec les deux mains. Il faut avancer, pas à pas. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On lui tient une main. On fait avancer. Et après, on le lâche. On lâche pas, il avance, il ne se croit pas, et il tombe. On le relève, n'est-ce pas, encore une fois, on tient les deux mains, une main, on le lâche, il avance, et il tombe, etc. Et il tombe, il se blesse, et il pleure, et il se relève. C'est comme ça qu'il apprend à marcher. Par aussi Hachem, il nous tient au départ, avec les deux mains. C'est un grand élan de tchouva. À part la tchouva, eh bien, on sent qu'on est épaulé par la main divine. Qu'on sent qu'on est aidé, Hachem nous a poussé, et tout marche, tout réussit. Et après, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut t'apprendre à être autonome. Dans ta tchouva, dans ta Torah. Si on est toujours épaulé par Hachem, alors on va aussi devenir trop dépendant de cette aide, de ce soutien extérieur, soutien moral. On a besoin, c'est vrai. C'est ça que Hachem nous donne au départ. Mais après quelques mois, quand tu es déjà plus ou moins stable, eh bien Hachem va te lâcher. Il va se cacher, il va disparaître. Et tu vas tomber, comme un enfant qui tombe. Et c'est normal. C'est normal, il ne faut pas être brisé par ça. C'est normal, il ne faut pas rester tombé. Il ne faut pas être brisé. Et surtout, ce que dit le Bala Moussar, ça ne remet jamais en question la tchouva que tu as faite auparavant. Même si on a tenu bon pendant des mois et des années, et après on est retombé, ça ne remet pas en question, c'est normal. Alors plus que cela, on dit Chachamim, en Adam, Omed, Al-Divre Chachamim, Elaim Ken, Nershal Bahem. C'est terrible cette phrase-là. C'est que tu vas pouvoir vraiment prendre conscience de la véracité d'une parole d'un sage que lorsque tu vas trébucher, quand tu vas, eh bien, tomber, quand tu vas, ça, tu vas faire la faute, n'est-ce pas, à dire, ah oui, ils ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend jamais assez compte, eh bien, de la véracité de chaque mot, des paroles de nos sages. Ils ont dit ça dans Pirkei Avot, n'est-ce pas? Eh bien, c'est mot à mot, c'est exact. Tu dis, oui, bon, ils ont exagéré, cette façon de parler, comme si, comme ça. Non, non, non. Tu verras un jour ou un autre, eh bien, que c'est exactement comme ça. Et le fait d'être trébuché, n'est-ce pas, ça ne remet pas en question ta chouva ou ta Torah. Des fois, on peut faire trébucher quelqu'un pour lui montrer, lui faire prendre conscience, ah, tu as vu comme la Torah a raison, comme Hachaim ont raison, pour te mettre le point là-dessus. Et dorénavant, si tu te relèves tout de suite, n'est-ce pas, dorénavant, eh bien, tu vas faire plus attention. Et tu vas être persuadé de la véracité de ce Mamar Chazal. Voilà, il y a un élément aussi qui intervient. On a dit plusieurs fois, il y avait dans environ une centaine d'années, 150 ans, dans un pays en Europe, un roi, lorsqu'il voulait choisir les soldats de son armée, qu'est-ce qu'il faisait? Il les mettait sur un cheval excité, enragé. Et c'était quasiment impossible de ne pas tomber. Il choisissait le soldat, non pas celui qui ne tombait pas, parce que pratiquement tous tombaient, mais il vérifiait combien de temps ça lui prenait au soldat, quand il est tombé, de remonter sur le cheval. Est-ce qu'il le fait en 30 secondes, ou alors il reste allongé, brisé, découragé? Ça, c'est un élément qui est important. Eh bien, quand on est tombé, ne pas être brisé, ne pas rester allongé, se lever tout de suite. En fait, ce qu'il dit ici, c'est qu'en fait, quand tu es conscient de cela, que le fait d'avoir dérapé, parce que Hachem t'a lâché, c'est pas un mauvais signe. C'est pas que toi qui es fautif. C'est parce qu'Hachem t'a lâché. Hachem nous a lâché pour notre bien, pour qu'on soit autonome. Parce qu'Hachem, il veut, n'est-ce pas, jusqu'à présent, Hachem t'a encouragé, t'a soutenu, t'a accompagné. Parce que sans ça, c'est très difficile. Il m'a lâché, sans la divine, on ne peut pas arriver. Mais ensuite, on doit arriver à une phase où on doit devenir plus ou moins autonome. Et c'est pourquoi, eh bien, le Sahara qui a été dans les oubliettes, il rejaillit encore une fois. Il rejaillit. Pour que tu apprennes à te mesurer à lui, à l'affronter, à le battre. Encore un élément qui est important, ça on a dit plusieurs fois, c'est ce que dit le Baal HaTanya, c'est que précisément dans la Tfila, ou dans le Nida Torah, eh bien, des mauvaises pensées arrivent, bien souvent, surtout dans la Tfila, surtout, le Shema et l'Amida. Et dit le Baal HaTanya, il faut bien savoir que ce n'est pas un mauvais signe, au contraire, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que, dit-il, eh bien, la tchouva, on l'a fait, mais bien souvent, on fait tchouva que sur l'action de la vera, que sur l'habitude mauvaise. On a lâché, n'est-ce pas, la mauvaise habitude. Et on oublie de faire tchouva dans la pensée. Parce que, n'est-ce pas, le fait d'avoir pensé à la vera, d'avoir programmé la vera, c'est aussi une déficience, c'est aussi un problème. Et des fois, on a l'impression que la tchouva se limite à l'action. J'ai lâché la vera, fais la mitzvah, c'est bon. Il y a encore une phase importante, une facette qui manque, la tchouva de la pensée. Et c'est pourquoi ces pensées mauvaises, elles viennent pendant ta tfila, quand tu es en élévation spirituelle grandiose, elles viennent comme te supplier de leur faire un tikkun. En fait, c'est un bon signe, n'est-ce pas? Si on vient, eh bien, compléter ta tchouva. Ces pensées, elles viennent dans le chemin, dans l'amida. Comme tu dis, fais-moi un tikkun. Il manque ça pour la tchouva. C'est quoi le tikkun? C'est très simple. Il faut faire un effort de se concentrer dans les mots de la tfila, les mots du Tosfot, les mots de la Gemara. Quand tu viens de pas faire un effort de ne pas laisser eh bien, tes pensées vagabonder vers le Sahara, vers n'importe quoi, vers la pensée mauvaise qui te perturbe, mais te concentrer sur les mots de la Torah. Et là aussi, d'une Chaim, un grand chidouche, un grand isod. C'est qu'il faut penser aux formes des lettres et des mots. Il dit pas qu'il y a une grande zgoula aussi, ça c'est bien aussi de voir dans le sidour, ou alors de s'imaginer la forme de la lettre, eh bien, de la Shana Kodesh. D'abord, ça a une zgoula, eh bien, de se concentrer dans la Amida. Et c'est aussi un grand tikkun au niveau de la pensée, parce que tu vas donner un nouveau siège à ta pensée qui était dans la Avera, dans n'importe quoi. Eh bien, tu as donné une pensée de Torah de Tfila. C'est les mots de la Torah et une Kdusha particulière. Pas le Sefer Torah, la Kdusha, en fait, c'est de l'encre avec qui a été écrit, une structure qui a une forme, c'est tout. Quand tu ne sais pas lire, ok, ça a une forme. Quand tu ne viens pas droit, rond, ça, tu fais un semer, c'est un rond, c'est tout. Et en effet, ces formes, elles ont une kdusha particulière. Parce qu'elles viennent exprimer des paroles de la Torah, mais c'est en hébreu, n'est-ce pas, hein, c'est pas qu'une convention. Il y a toujours un rapport étroit. Quand tu prends une table, c'est bon, c'est une table, c'est T-A-B-L-E. Il n'y a aucun rapport entre la table et le mot table et les lettres, n'est-ce pas, qui sont T-A-B-L-E. Aucun rapport. C'est une convention, on a décidé, on va appeler ça table. Et ça tabouret, ça chaise. Alors que dans la Torah, la Shana Kodesh, il y a un lien étroit, n'est-ce pas, entre la forme de la table et les mots qui sont, le mot qui est Shulchan. Il y a le Rabbi Shouron de Marseille, le père de Rav Chania, il a des cours là-dessus, sur Dix, n'est-ce pas, pour expliquer eh bien, l'importance de chaque lettre de la Torah et les mots, et quel rapport il y a entre tout ça. Alors bon, c'est un autre sujet. Donc en fait, il y a une gdusha qui est dégagée dans les mots, n'est-ce pas, de la Tfila et du Sefer Torah. Certains sidourim même, ils ont comment la Tfila inscrite, Biktav Ashurit, pas encore les formes du Sefer Torah. Ben Yishraïli, c'est encore mieux. Il y a plus de gdusha dans ta tefila, ta pensée, quand tu vas eh bien, t'imaginer les formes, n'est-ce pas, de la tefila hein, comme les formes des lettres du Sefer Torah. Et là, donc il dit à Tania, ce n'est pas un mauvais signe d'être perturbé, c'est un bon signe parce qu'on vient eh bien, t'aider à ce que ta tefila soit parfaite. Parce qu'il manque cette facette eh bien, du tikkun de la Mahashava. Alors, c'est un béchis qu'on sent, n'est-ce pas, qu'on a des fois une retombée. Après un certain temps, de tchouva, c'est pas par hasard, c'est pas un mauvais signe, c'est parce que Hachem nous a lâchés. Le fait qu'il nous ait lâchés, c'est pour notre bien, pour qu'on soit autonome. Et dit-il que si on est solide, si on tient bon, n'est-ce pas, si on va eh bien, persévérer la tchouva, même sans sentir un élan, même sans être ébloui comme on a été ébloui, n'est-ce pas, illuminé auparavant dans la tchouva, eh bien, on va se stabiliser dans la Torah et la tchouva, et là après, on va mériter encore une fois une nouvelle aide divine. Parce qu'il faut savoir que la tchouva, c'est un monde infini que tu vas bâtir. Alors quand tu n'arrives pas à te stabiliser dedans, donc quand tu vas t'installer, et ça va devenir une vertu qui t'appartient, qui va devenir personnelle. Quand tu atteins une nouvelle dimension en Torah, en te filant tchouva, au point où tu es autonome dedans, que tu es déjà, n'est-ce pas, stabilisé, elle t'appartient. Et tu vas, grâce à ça, eh bien, entamer des nouvelles dimensions de Torah, de Tfilah, de Tshuva. Et là, tu vas devenir encore une fois Baal Tshuva par rapport aux nouvelles dimensions que tu as. Et là, encore une fois, Hachem va intervenir pour t'aider. Et tu auras un nouvel élan, n'est-ce pas, de Tshuva et de Torah par rapport à ça. Et ça, c'est une ascension qui est infinie. Et donc, là, en fait, la règle à retenir, c'est que souvent ça, c'est En Yehush Ba'olam Klal. Même si ça ne marche pas, même si eh bien, l'élan s'est estompé, il ne faut pas se décourager, au contraire, c'est un bon signe qu'on doit eh bien, encore plus s'investir pour être autonome dans la Torah de la Tshuva. Tov, Atkan, Shachar Vatzlacha.